Le sujet, c'est la lâcheté. C'est un sujet difficile. C'est quelqu'un qui m'a demandé de le traiter, un chrétien, parce qu'il a eu beaucoup d'épreuves où il s'est senti lâche. Et il s'est senti... il avait été éduqué dans la crainte et dans l'occultisme, et il était fort touché par la lâcheté, par la crainte, qui lui a fait faire avoir des attitudes parfois très, très peu nobles. Alors, je vous ai déjà parlé l'autre jour de la lâcheté, et aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce qui s'est passé à un moment donné dans Marc, au chapitre 6. Marc, au chapitre 6. Marc, chapitre 6, verset 3. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Donc, vous voyez, quand Jésus de Nazareth commence son mandat, son ministère, après le baptême dans le Jourdain, où le Saint-Esprit l'autorise à fonctionner, à parler, à exercer pleinement son ministère, qu'il avait déjà avant, évidemment, éternellement, eh bien, toute sa famille considère qu'il est une occasion de chute. Pourtant, l'attitude de Jésus était un véritable privilège, un cadeau. Et ils ont trouvé ça comme une occasion de chute. Je dirais qu'une attitude générale, c'est que quand il y a un chrétien ou une chrétienne qui vraiment s'engage pour le Seigneur, les autres considèrent cela pour eux comme un scandale, comme une chute. Et ils prennent des attitudes assez mauvaises. Au lieu de s'intéresser à la vérité que la personne a trouvée, la vérité qui est entrée dans son cœur et dans sa vie, il chute. Moi, je trouve que c'est une attitude déjà de lâcheté, c'est-à-dire c'est un refus de la grâce qui passe. Si vous voulez, si on faisait passer devant quelqu'un un ticket de loterie avec 1 million d'euros et qu'on dirait « tu le prends ou tu le prends pas », eh bien, je pense qu'il y en a beaucoup qui le prendraient. Mais quand Jésus de Nazareth entre dans la vie de quelqu'un, dans une famille, la plupart des gens alentour ne veulent pas prendre le ticket de la loterie nationale, de la loterie céleste qui est entrée dans leur famille. C'est une occasion de chute. Moi, je pense que nous avons, depuis Adam et Ève, et dans notre âme, un esprit de lâcheté face à la vérité. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui est fondamental. On préfère rester dans ce qu'on est, on préfère rester dans les habitudes, et si quelqu'un devient chrétien ou chrétienne, eh bien, on n'adhère pas et on considère cela comme une chute, une occasion de chute. C'est comme un problème, si vous voulez, petit ou gros, mais comme un problème. Donc, Marc, chapitre 6, verset 3, « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, José, Jude et Simon, ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ?» Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa la main à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Il s'étonnait, c'est-à-dire, bon, il manifestait un étonnement, parce que le Fils de Dieu n'est pas étonné. Il y a si longtemps qu'il voit les hommes du haut du ciel, dans leur vraie attitude. Voilà une attitude, et je voudrais vous montrer... Dans Marc chapitre 6, d'autres situations qui sont assez renversantes, hein. C'est quand Jésus rejoint la barque, verset 45, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla vers sur la montagne pour prier. Donc Jésus s'en va dans la montagne pour prier. Et nos artistes, les apôtres bien-aimés, sont dans la barque. Ils sont habitués à naviguer, ce sont des pêcheurs de métier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Donc il est seul, il est en train de prier et il fait nuit. Et Jésus voit à travers la nuit, voit la barque, voit l'état des cœurs de ses disciples. Et c'est lui qui les a donné l'ordre de passer de l'autre côté. Donc qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est arrivé? Ce qu'il savait qui allait arriver. Jésus n'est pas étonné. Mais c'est une épreuve permise. Pourquoi? Pour découvrir sa fragilité, son incrédulité, parfois sa lâcheté. Les épreuves sont permises parfois pour s'examiner et remédier au problème. En tout cas, demander à Dieu d'y remédier. Alors, le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent leur était contraire. Alors, lisez le psaume 107, vous verrez que ce vent et cette tempête sont activés par Dieu. Et oui, psaume 107. Et d'autres psaumes d'ailleurs en parlent. Et dans Ésaïe aussi. À la quatrième veille, donc à 3h du matin, à la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, ils poussèrent des cris. Car ils le voyaient tous et ils étaient troublés. C'est quand même fort, Jésus, le Messie qui marche sur l'eau, qui est auprès d'eux, et ils sont troublés. Vous trouvez ça normal, vous? Je vous dis que nous laissons passer souvent le ticket, le gros lot de la loterie nationale céleste, devant nous, sans le prendre. Eh bien, c'était leur cas. C'était leur cas. Leur incrédulité et leur cœur inconstant, irrésolu, amène une complication, une confusion énorme. Ils le voyaient tous et ils étaient troublés. Aussitôt, Jésus leur parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Je voudrais vous dire ceci dans la situation d'aujourd'hui. N'ayez pas peur. Jésus vous dit, « Ceci, rassurez-vous. » Donc, Marc, chapitre 6, verset 50, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Prenez ce verset, gardez-le pour aujourd'hui, pour demain et les autres jours. Prenez-le et lisez Marc, chapitre 6, verset 45 et suivant. Ce verset est très important pour vous, pour moi. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Retirez-vous dans le silence, éteignez votre télévision, inclinez-vous dans la prière et demandez au Seigneur de parler à votre cœur, que ce verset résonne dans votre cœur, s'installe, se greffe dans votre cœur et devienne une vérité fondamentale de votre vie. C'est une parole vivante. J'ai reçu quelqu'un aujourd'hui et hier qui a des angoisses, qui parfois ne dort pas. Heureusement, chez nous, il a bien dormi. Et ses angoisses sont très fortes depuis qu'il est né. Eh bien, avant de partir, je lui ai pris des versets, je lui ai proposé des versets pour qu'il n'écoute plus ses angoisses. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, la multiplication des pains qui était juste avant, parce que leur cœur était endurci. Ce que je voudrais vous dire, c'est que l'endurcissement du cœur vient d'une pratique, d'une vie incrédule, d'une vie où on ne veut pas, où on ne prend pas le temps d'écouter le Seigneur qui parle à notre âme. C'est essentiel d'écouter le Seigneur parler à notre âme et de vivre avec lui, de cœur à cœur, de pensée à pensée. Et lisez la parole de Dieu régulièrement, et vous verrez l'endurcissement disparaîtra, l'incrédulité, l'angoisse, et parfois la lâcheté, qui est un complet abandon du Seigneur pour 1 heure, pour 2 heures, pour 5 minutes, pour 15 jours, pour 6 mois, et parfois l'abandon de certaines attitudes chrétiennes pour retomber dans d'autres péchés. Donc faisons attention, la lâcheté est toujours l'expression finale d'un endurcissement et d'une incrédulité. Alors, j'ai pris ce passage dans Marc chapitre 6. Maintenant, nous allons aller dans Marc chapitre 5. Pensez bien que l'évangile de Marc, c'est l'évangile de l'apôtre Pierre. Et nous y viendrons après, à l'apôtre Pierre. Marc chapitre 5, verset 14. Vous savez que dès le début du chapitre 5 de Marc, Jésus s'aventure et rentre dans une région complètement incrédule, hostile à la Torah, à Israël. C'est une région où Israël ne s'est jamais implanté réellement. C'est une région très dure, très incrustée dans l'idolâtrie et l'opposition, comme il y en a ici en Europe. Et ce qui se passe, c'est que Jésus est confronté à un homme qui sort des tombeaux et qui est possédé d'esprits impurs. Bon, on a essayé de le lier avec des chaînes, etc. Il a tout cassé et il s'avère dangereux. Voilà, et donc c'est un homme qui hurle, qui crie au verset 5, qui se meurtrit avec des pierres. Donc en général, nous ici, dans nos pays, on mettait la camisole de force, on les enfermait dans une pièce matelassée, où on leur injecte des produits, on les calme, on les fait dormir 5, 6 jours, 10 jours, le temps qu'il faut. On essaye en tout cas de mater par des camisoles chimiques maintenant ce genre d'individu. Mais Jésus, verset 6, Marc chapitre 5, verset 6, « Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Donc nous voyons que ici il ne s'agit pas de l'homme qui parle comme ça, c'est l'esprit qui est en lui. Et qu'est-ce que nous voyons? C'est la lâcheté de Satan. Face à Jésus, il a peur. Face à Jésus, il a peur. Et vous devez toujours savoir que si vous êtes en vie, dans une vie sincère et régulière, dans la prière et la parole de Dieu avec le Seigneur, Satan a peur de Jésus qui est dans votre cœur, dans votre vie. Et il a peur aussi de vous. Ne lui donnez pas tout le crédit que parfois on donne dans certains films, dans certaines, et même dans certaines églises où on parle d'exorcisme à tout bout de champ, de délivrance. N'accordez pas du crédit à Satan plus qu'il n'en faut. Il faut avoir une vie chrétienne sincère et vraie dans le Seigneur. Et c'est Satan qui a peur de vous. C'est peur de Christ en vous. Donc, il n'y a pas lieu d'avoir une forme de lâcheté ou de soumission à Satan dans la vie chrétienne lorsqu'on est stable et fidèle dans la parole de Dieu, la prière, la relation à Christ. Alors, bien sûr, tous ces démons vont être expulsés et je ne vais pas lire tout. Et qu'est-ce qui se passe pour la région ? Eh bien, regardez au verset 16 et 17, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux. Ben oui, tous les esprits mauvais sont partis, les cochons ont hérité de ces misères spirituelles de la région et sont tombés dans la mer, dans le chaos. Mais, regardez bien, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Pourquoi des personnes qui voient un homme guéri par le Seigneur, qui n'est plus un cas psychiatrique, qui est guéri. Pourquoi les gens détestent-ils le passage de Jésus? Pourquoi ne veulent-ils pas de la bénédiction du Seigneur? C'est assez étonnant que dans notre société, très incrédule, on ne demande pas au Seigneur Jésus de guérir les gens dépressifs, les gens troublés, psychiatriquement gravement condamnés, étiquetés. Pourquoi on ne prie pas pour eux? Pourquoi on ne demande pas à Dieu de les guérir? Pourquoi on n'insiste pas par le jeûne et la prière au pied du Seigneur pour leur demander une guérison? Et pourquoi les laisse-t-on dans cet état? Est-ce qu'on souhaite que cette situation continue tout le temps et qu'il y ait de plus en plus de malades psychiques? C'est à se le demander parce que le nombre augmente. Et donc, il faut savoir que nous avons un chemin à choisir. La prière et le jeûne pour ce genre de maux spirituels qui existent dans notre société. Dans Matthieu 11, il est clairement dit que ce genre de démons s'en va que par le jeûne et la prière. Nous avons un ministère de prière, d'autorité, non pas nous, mais en Christ, pour que la situation de beaucoup de personnes s'améliore. À Dieu la lâcheté spirituelle, il faut mener le combat spirituel en Christ pour notre monde, pour tous ceux que nous rencontrons, pour tous ceux qui souffrent, pour tous ceux qui sont tombés dans des cas de meurtrissures spirituelles graves. Alors, continuons dans Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Verset 66. Marc 14, verset 66. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain prêtre. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit : Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia, disant : Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents : Celui-ci est de ces gens-là. Et il nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre : Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. À son accent, à sa mentalité, il était différent des gens de Judée, évidemment. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer : Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. Et en y réfléchissant, il pleurait. Vous voyez, la grande grâce que Pierre a eue, c'est de réfléchir. Et c'est de pleurer. C'est le début du commencement. Pour sortir de la lâcheté et de l'incrédulité. Il a réfléchi et il a pleuré. Il était affligé dans son état, de sa situation, de son type de relation, complètement hypocrite avec le Seigneur Jésus. Et forcément, il était mis dans une situation où le Saint-Esprit pouvait venir en aide à sa faiblesse et le guérir, l'habiter et le transporter dans une véritable foi, une foi qui peut supporter toutes les épreuves. C'est quand nous avons touché le fond de l'eau, le fond de la piscine, que nous donnons un coup de talon et que nous remontons, que nous arrivons au-dessus de l'eau, nous reprenons de l'air. Et bien, ça a été le cas pour Pierre. Pierre a été mis dans une situation, et Jésus le savait, où il devait être préparé à voir son état de cœur complètement faible et lâche. Je peux vous dire que je suis passé par des situations pareilles, et qu'on n'est pas brillant à ce moment-là. Mais il faut après, bien sûr, réfléchir et pleurer et demander au Seigneur son secours. Bon, nous allons aller dans, si vous voulez bien, il y a d'autres situations. Je pensais à Luc chapitre 10. Oui, je vais aller dans Luc avant d'aller dans les Épîtres. Luc chapitre 10. Une autre forme de lâcheté, de démission, si vous voulez, spirituelle, c'est celle-ci. Luc chapitre 10, versets 31 et 32. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, blessé, meurtri, au bord du chemin, hein, en train de mourir, sur le chemin de Jérusalem à Jéricho, passa outre. Un lévite, donc un adjoint du prêtre, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Qu'est-ce qui se passe? Ils savent très bien, ces gens-là, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans le Lévitique. Et tu aimeras l'orphelin, l'étranger, la veuve. Et vous voyez bien que la parole de Dieu est claire dans Deutéronome, dans Lévitique, dans les nombres. Et donc, clairement, ils n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Ils n'accomplissent pas la parole de Dieu. Pourquoi? Ils ont peut-être peur que le temps qui s'arrête, ce malade en cache des autres derrière les rochers qui vont leur sauter dessus. Peut-être. Vous savez, j'ai déjà chargé des autostoppeurs. Je charge une personne et puis tout d'un coup, il en sort du fossé derrière et il en avait 3-4. Mais ça, quand c'est comme ça, moi j'accélère et je m'en vais. C'est clair que là, peut-être que la bourrique n'allait pas assez vite dans ce cas-là pour se sauver. Mais en attendant, je ne pense pas que la situation était malencontreuse. La situation que Jésus décrit ici, il était possible de rendre service. Il était possible de faire du bien et de secourir cette personne. Et ils ne l'ont pas fait. C'est de la lâcheté. Nous ne pouvons pas laisser les frères et les sœurs dans notre assemblée dans la situation de difficulté sans réellement prendre leur situation à cœur. Nous ne pouvons pas, sinon c'est de la lâcheté, c'est du mensonge. Dans Luc chapitre 10, versets 3 et 6, une autre situation, il y a tellement de situations dans la Bible, dans l'Évangile. Chapitre 3, 10, verset 3. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. C'est réconfortant, n'est-ce pas? Voilà que Jésus leur dit tout de suite, oulalalala, vous êtes comme des agneaux, c'est-à-dire vous n'emploierez pas l'arme, le bâton, vous n'emploierez pas vos poings, etc. Vous allez me faire confiance, c'est moi qui vous défendrai, c'est moi qui interviendrai. Vous allez aller comme des agneaux, sans violence, sans un cœur méfiant. Vous allez aller m'annoncer et apporter le salut de ma part. Je vais passer dans la région, préparer les cœurs. Et donc, ce qui se passe, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Pourquoi? Parce que Jésus est l'agneau de Dieu. Donc tous les serviteurs de Jésus sont comme des agneaux, ils lui ressemblent. Et donc, au milieu des loups, il y a des loups? Ben oui, il y a des gens très hostiles à l'Évangile. Alors, chers amis, je lis les versets qui suivent, c'est très intéressant. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers. Donc, ne vous confiez pas dans les moyens matériels classiques. Hein? Ne vous entourez pas de tous les apparats économiques, des apparats financiers pour faire le travail du Seigneur. Ne saluez personne en chemin, c'est-à-dire c'est pas faire l'ours et ignorer les gens, c'est pas ça, mais ce n'est pas perdre son temps dans des discussions vaines et folles, inutiles. Et moi je vais vous dire, je me suis perdu dans les conversations stupides et inutiles des milliers de fois. Et c'est ma femme qui m'a dit, mais que tu ne te rends pas compte de ce que tu fais? Et quand ma femme n'était pas là, c'était le Saint-Esprit qui me le disait. Je demandais pardon, bien sûr, après. Et maintenant, partout où je passe, aux pompes à essence, partout, j'essaye de toucher les cœurs de la part du Seigneur. Parce que j'en ai marre de cette lâcheté, de cette espèce de bonhomie, de sympathie pour les gens, mais on n'affiche rien de sa foi, on n'affiche pas la priorité, c'est-à-dire leur salut à eux. C'est ça la priorité. C'est pas mon moi-je confortable dans mes pantoufles. Et c'est pour ça que ne perdez pas votre temps à avoir des conversations inutiles et bêtasses en cours de route. Mais si quelqu'un écoute la parole, écoute l'enseignement que je vous ai transmis, que je vous demande de le rapporter, alors si la paix descend sur cette personne et dans sa maison, restez-y quelques jours et établissez une relation profonde, un partage réel, et préparez ma venue dans cette maison. Préparez cette relation éternelle que je dois avoir avec ces gens. Et puis allez-vous-en autre part. Donc, clairement, la mission du chrétien est une mission de responsabilité. S'il vous plaît. C'est Jésus qui nous invite à une mission de responsabilité. Et nous n'avons pas une vie de démission si nous voulons plaire à Dieu. Si nous voulons plaire à Dieu, nous ne pouvons pas avoir une vie de démission. Pas facile. Je pense que ça s'apprend, c'est progressif. On se trouve souvent lamentable, mais si on demande pardon à Dieu, et quand on fait confiance à Dieu, un jour ça change. Un jour, on est prêt à témoigner, sans complication, sans se casser la tête. Ça vient tout seul, parce que le Saint-Esprit nous y pousse. Alors, prenons maintenant la première aux Corinthiens, chapitre 10.
Bonsoir, Christian, ça va bien ?
Première aux Corinthiens, chapitre 10.
Oui, à mon avis, il a trop travaillé aujourd'hui, alors il s'est dit, je ne vais pas encore recommencer demain, je crois.
Ouais.
Je crois que c'est ça. Étienne est reparti.
Non, c'est moi qui lui ai conseillé de repartir parce qu'il y a de la tempête demain.
Ah non, c'est Jeannot qui lui a conseillé de repartir parce qu'il nous annonce de la tempête demain, nous, ici.
Oui. Il est en route et il ne passe pas à Saint-Menou. Il va directement à Chalon. Ça va ? Il va directement à la maison à Chalon.
Oui.
1 Corinthiens, chapitre 10, verset 7. Regardez bien ce qui s'est passé pour les Hébreux dans le désert. Est-ce qu'il nous guette aussi ? Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux.
Ben, ça que le recouvre-feu chez vous.
Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Il ne faut pas s'inquiéter, s'il vous plaît.
Couvre-feu,
il ne faut pas s'inquiéter, il est sur l'autoroute et on ne l'arrêtera pas.
Il est sur l'autoroute, que j'en me dis, alors on ne va pas l'arrêter sur l'autoroute.
Non, il ne faut pas s'inquiéter.
Il faut pas s'inquiéter.
Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Voici donc l'attitude des Hébreux dans le désert pendant que Moïse est dans la montagne. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Qu'est-ce qui fait que ces personnes sont piquées par les serpents venimeux? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont en train... ils meurent? Qu'est-ce qui fait qu'ils se divertissent? Qu'est-ce qui fait qu'ils se mettent à boire et à tomber dans la débauche? Simplement, qu'ils n'ont pas cru dans l'autorité de Dieu qui conduisait le peuple. Pourtant, ils sont sortis, ils ont passé la mer Rouge. Ils ont passé la mer Rouge. 1 Corinthiens, chapitre 10. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont été tous sur la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 1. Donc, ils étaient tous passés. Ils avaient connu une expérience formidable avec le Seigneur. Et à un moment donné, tout est effacé. Pourquoi ? Ça, c'est l'esprit de lâcheté et de facilité. C'est l'esprit de démission. Il n'y avait aucun esprit d'adoration, d'engagement vers Dieu. Et il y avait simplement une poignée de gens qui étaient fidèles à Dieu dans ce peuple. Et Moïse qui était sur le Sinaï. Ainsi, il peut en être de même dans nos églises.
Quoi ?
Une poignée résiste. Certains sont fidèles à Dieu et tous les autres se laissent aller. Dans le divertissement, dans la boisson, dans l'impudicité, tous ces textes sont là pour nous dire que la lâcheté nous attend. Et la lâcheté engendre tous les autres fléaux. Alors, qu'est-ce que dit Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 9, « Ne tentez point le Seigneur, car nous avons une attitude de lâcheté et de démission, nous tentons le Seigneur, nous le provoquons. Ne tenterons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, contre Dieu bien sûr, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple à qui ? À nous. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Eschaton, depuis la mort et la résurrection de Jésus jusqu'à son retour. Il y a un problème ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas de problème. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Que celui qui est debout ne prenne garde de tomber. Tomber dans quoi ? Dans la démission et la lâcher l'incrédulité. Alors regardez bien, chers amis, dans ce qui est dit dans ce texte, au verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Nous sommes tous humains. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Le croyons-nous ? Regardez l'apôtre Pierre. Le coq a chanté, il avait trahi trois fois. Et le Seigneur a permis qu'il sorte de la tentation et des pièges du tentateur. Grâce à la puissance du Saint-Esprit, grâce à la venue du ressuscité qui a été le retrouver. Alors, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. Que veut dire ce texte ? Retournons à l'Écriture. Analysons les cas d'incrédulité et de démission et de lâcheté. Tirons-en des leçons et ne tombons pas dans les mêmes situations. Je pense que la lâcheté n'est pas irrémédiable. La faiblesse n'est pas endémique, pathologique. Il faut simplement s'appuyer sur les promesses de Dieu, sur sa personne. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dieu est fidèle. Le croyez-vous ? Il ne vous laissera pas en dessous de la tentation. D'ailleurs, dans notre Père, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, du tentateur. Si Jésus a dit ces paroles dans le Pater, dans notre Père, c'est que l'autorité de Dieu est tout à fait possible et à notre portée. Il suffit de réclamer l'autorité de Dieu dans nos vies pour ne pas faillir. Nous sommes des brebis, il est le berger. Nous sommes parfois mal portants, il est le médecin. Il est le Seigneur. La lâcheté, même si vous l'avez connue, même si j'ai connu, n'est pas quelque chose d'irréductible, d'inéluctable. Et sachez bien, la victoire nous attend.
Triste parce que j'avais fait bien
en Christ.
Pour bien recevoir et tout. À midi, vous avez à manger avec nous et tout.
Au chapitre 9, 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 22. Chapitre 9, verset 22. J'ai été faible avec les faibles, dit l'apôtre Paul, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Donc vous voyez l'attitude du ministère, d'un bon ministre de Dieu, c'est de s'approcher de tous, sans les écraser, Et c'est de les encourager. J'étais faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Nous avons tous une responsabilité entre nous. Et tous ceux qui ont un ministère en ont une plus grande encore. Et dans le ministère, on ne peut pas laisser quelqu'un plonger dans des situations de faiblesse, voire de lâcheté, sans réagir. Ce sont des situations normales qu'un pasteur doit rencontrer ou un ancien qui doit assumer, et Dieu est capable de changer la situation. Oui, Dieu est capable. Il a toute la puissance pour le faire. Et la parole de Dieu est là pour redresser le frère et la sœur. Alors, allons dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Donc ici, Apollos, l'auteur de l'épître aux Hébreux, probablement, rappelle à tous ces chrétiens qui ont souffert grandement dans la foi et qui ont été très solides, qu'il ne faut plus après, il ne faut pas laisser retomber la flamme, il ne faut pas se dégonfler. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Donc, il rappelle que ces chrétiens-là ont été très solidaires, très forts, et capables d'être responsables ensemble dans la souffrance. Eh bien, il leur dit, mais continuez, ne lâchez pas, ne lâchez pas. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Donc, nous voyons bien qu'il rappelle les grandes qualités, les bons moments de la foi que ces chrétiens-là ont eus. Et il leur demande, mais continuez, remontez la pente, reprenez le bon chemin du bon combat. C'est réellement quelque chose que nous connaissons tous, mes amis. Alors, au verset 35, et ça, en fonction du Covid et de tout ce qui s'est passé, c'est très important, verset 35, « N'abandonnez donc pas votre assemblée, à laquelle est attachée une grande rémunération. » L'assemblée, l'église, peu importe la grandeur de l'église, il y a une rémunération dans l'assemblée. C'est quoi? Il y a la présence de Christ. Là où vous êtes réunis à deux ou trois en mon nom, je suis au milieu de vous. Il y a la présence de Christ. Il y a la parole qui est enseignée, qui est partagée. Il y a la louange, les chants. Et il y a forcément quelque chose d'unique et de spécifique à une assemblée chrétienne, si elle est fondée dans la parole de Dieu et la prière. C'est l'activité première de Christ, la souveraineté de Christ dans l'Église. Bien sûr, il faut que ça existe au point de départ, que cette Église fonctionne dans la souveraineté de Christ, de sa parole, de l'amour et de la prière. Mais cette assemblée-là, ne l'abandonnez pas, car une grande rémunération, c'est laquelle? Mais c'est la force. C'est la force contre la démission, c'est la force contre la lâcheté, la force contre la faiblesse, la force contre l'anéantissement. Chaque fois que moi je suis avec des frères et des sœurs, peu importe le nombre, je sais comme si j'avais été 15 jours en vacances. J'écoute Vincent, j'écoute les chants, etc. On va reprendre le culte le 1er avril en présentiel. Le 1er avril, on le refait. Que ce soit dans la salle ou à l'extérieur. Je suis heureux comme si j'avais été 15 jours en vacances. Pas parce que je prêche, parce que Christ est là et que les frères prient et chantent. Vous avez besoin de persévérance, verset 36, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Vous avez besoin de persévérance. Donc le sujet, c'est clair, la persévérance est une vertu chrétienne qui doit se partager en Église par des contacts rapprochés, par un culte en commun. Et regardez bien ce qui est mis. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Qu'est-ce qui est promis à un chrétien ? La persévérance, la force. La force et la paix dans la bonne relation à Christ avec ses frères et ses sœurs. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Se retirer, c'est vraiment le mot pour dire s'il lâche, s'il abandonne. Nous ne sommes pas, verset 39, de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Chers amis, méditez ces textes. Ils sont très importants. Ce sont des textes de base pour éviter de tomber dans la démission, la faiblesse, voire la lâcheté spirituelle, que je ne souhaite à personne. Ce n'est pas très marrant. Prenons la deuxième à Timothée. La deuxième à Timothée, chapitre 2. Deuxième à Timothée, chapitre 2. Versets 1 à 15. C'est un chapitre extrêmement important, justement, pour fortifier l'âme de tout quiconque est engagé en Christ. Toi donc, mon enfant, spirituel, forcément, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Tout est dit là. Ma grâce te suffit. Paul a dit ça, Jésus a dit ça à Paul quand il était dans une extrême faiblesse pendant plusieurs années. Ma grâce te suffit. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, qu'est-ce qu'on a entendu à travers Paul ? L'œuvre de la grâce. L'œuvre de la fortification. De l'âme fortifiée par la grâce. Et cette œuvre-là, si tu l'as reçue, confie-la aussi à d'autres hommes qui ont la foi, pour qu'ils la transmettent à leur tour. Et voici des images pour montrer à quel point celui qui est fortifié en Christ, dans la grâce, ces images sont très fortes. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. S'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Nous voyons toujours le thème de l'intelligence revenir, un peu partout. Je pense que la persévérance et la force qui évite bien sûr la lâcheté, la démission, repose sur une intelligence, l'intelligence de la grâce, l'intelligence, la connaissance de Jésus, la connaissance d'une bonne relation avec Jésus. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donne de l'intelligence en toutes choses, te donnera. Donc la source de l'intelligence au niveau spirituel, c'est le Seigneur Jésus qui la donne. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts, selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur, donc il est prisonnier. Mais la parole de Dieu n'est pas liée, c'est-à-dire, Christ est agissant. Où que je sois, dans n'importe quelle situation, il me parle, et je peux parler. La parole de Dieu n'est pas liée, même si j'ai des chaînes, même si je suis en prison. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, donc des frères et des sœurs envers qui il a une mission, une responsabilité, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. La gloire éternelle. Voilà le bout du chemin pour celui qui persévère. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, donc morts à nos péchés, donc nous vivrons aussi avec lui, dans la puissance de la résurrection. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui, dans le règne de Christ. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. C'est-à-dire ici, c'est un cas exceptionnel, c'est le cas d'apostasie. C'est le cas où réellement quelqu'un trahit ses frères et sœurs, les fait mettre en prison, assassiner, etc. C'est des cas extrêmes, le reniement. Il ne s'agit pas d'un moment de faiblesse. Ce n'est pas la même chose. Je vous ai expliqué l'autre jour qu'au Tchad, un homme qui avait été dans les instituts bibliques, qui avait connu les pasteurs missionnaires, qui avait connu beaucoup de chrétiens africains, fidèles à Dieu, quand il est devenu président, il a fait massacrer tout le monde. Ça, c'est un cas de reniement. Donc, quand nous avons peut-être pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, un moment de faiblesse, nous abandonnons tous, ce n'est pas un reniement. Ça tombe sous le verset 13 dans ce cas-là. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Donc, dans le cas où nous sommes au fond, sous la tentation, dans la faiblesse, le Seigneur est toujours là pour me relever. Et bien sûr, les frères doivent être là aussi. Donc, la faiblesse, si nous sommes infidèles, la faiblesse, voire pendant un certain temps la démission, l'abandon de tout, n'empêche pas que la grâce est toujours là. N'empêche pas que là, le salut est toujours accordé. Et donc, nous pouvons retourner vers notre maître, comme l'apôtre Pierre est retourné vers son maître qui est venu vers lui. Le Seigneur vient vers la brebis qui s'est égarée. Il va la rechercher. Le croyons-nous? Donc, n'écoutons pas nos moments de faiblesse, ne nous abandonnons pas au grand désespoir. Maintenant, je voudrais vous raconter quelque chose de très intéressant. Vous savez que nous sommes en contact depuis un an avec des chrétiens du Punjab au Pakistan. Et le pasteur Saïd, 30 ans, qui n'a fait aucun institut, mais qui a été enseigné par son grand-père et son père, est un homme fidèle à la parole de Dieu. Et il y a 4 villages dans son ministère, il y en a même d'autres, mais 4 villages où il y a à peu près 400 chrétiens. Et le projet, depuis longtemps, on en parle, ça fait au moins 6 mois, d'une école. Comme chez nous, à Gomri, il y a une école avec 11 élèves. Là-bas, le projet, c'est une école, mais là, il y a 220 élèves. Nous avons prié pour cela. Des personnes m'ont donné de l'argent lors de mon voyage en France, il y a de ça 8 jours, 10 jours. Des personnes m'ont donné de l'argent, je lui ai envoyé. Il est allé au ministère et il a demandé, il a versé l'argent pour avoir le droit officiel d'ouvrir une école. Évidemment, tous les documents ont été fournis. Il a dû y remonter une fois ou deux, 250 km. Allez. Fois 2, aller-retour, ça fait 500. Deux fois, ça fait 1000 km. Dans des bus, c'était pénible. Mais il y a été. Ensuite, le gouvernement a dit, nous enverrons 2 fonctionnaires pour vérifier sur place. Dans les 10 jours. Et ils sont venus hier. Et que se passe-t-il? En plein pays musulman, les 2 fonctionnaires sont venus voir et ils ont dit, nous sommes très contents. Votre région a besoin d'une école, nous encourageons à la faire et vous avez notre accord. Et il a dit que c'était une école chrétienne. Ils ne se sont pas arrêtés à cela. Ils ont dit, c'est très important qu'il y ait une école ici. Ils ne se sont pas arrêtés au fait que ce soit une école chrétienne. Et donc, chers amis, les documents officiels vont arriver du ministère et une école chrétienne en pays musulman va être ouverte au Punjab. Est-ce que vous croyez à ça? Eh bien, moi, je vous le dis, c'est un miracle. Nous avions décidé de prier et de jeûner. Eh bien, les adultes, là-bas, 180 personnes avaient jeûné 2 à 3 jours, suivant les cas, et prié. Et ici, bon, j'avais essayé, c'est pas toujours facile, parce que quand je jeûne, en hiver, j'ai des crampes, j'ai fait tout ce que je pouvais pour le faire aussi, et dans la prière, j'étais assuré que tout était arrangé déjà. Dans les cieux, tout était arrangé. Et effectivement, hier, le jeune pasteur était complètement ému, mais ému de l'accord, sans aucune objection sur aucun point. Maintenant, il faut que l'école fonctionne. Il faut des cahiers, il faut des bics. Oh, les bancs, les chaises, tout ça, non. Eux, ils sont sur un tapis à terre. Mais il faut aussi un repas, parce que les enfants, 110 enfants au matin, pendant 4 heures, un casse-croûte, puis ils vont travailler 4 à 5 heures avec les parents, dans la boue, à faire des briques, comme les Hébreux en Égypte. Et l'après-midi, ceux qui avaient travaillé au matin arrivent, l'après-midi, ils mangent et ils travaillent. Donc il faut assurer un repas. C'est un repas, ça coûte 1,5 € à chacun de ses enfants, 220 enfants. Vous imaginez la somme? Autrement, ces enfants ne tiendront jamais le coup. Au bout d'une semaine ou deux, ils vont tous abandonner. Ils ne pourront pas tenir le coup. C'est très exigeant. Et donc, il est nécessaire que le miracle continue. La multiplication des pains continue. Que la grâce continue. Je ne crois pas que l'incrédulité est de mise dans ce projet. Il faut agir par la foi. Vous vous rendez compte, dans un pays musulman, un tel miracle. Chers amis, y aurait-il des miracles comme ça en France et en Belgique? Et dans nos pays? Est-ce que nous avons assez de foi pour qu'ils arrivent? Jésus a dit, va qu'il soit fait selon ta foi. Je pense que le problème de nous en Europe, c'est la foi. J'ai toutes des photos sur mon smartphone de toutes ces situations. Si certains veulent s'intéresser au sujet, à cette école, c'est nécessaire à ce moment-là que je leur fournisse des éléments. Mais je m'engage sur ma parole, on n'est pas dans la blague, on est dans le miracle. Le miracle de Dieu, une école chrétienne au Pakistan. Imaginez ça. Déjà, quand le frère Saïd nous parlait, il y a plusieurs mois, il disait « C'est un vrai miracle qu'on se connaisse, frère, c'est un vrai miracle. J'ai jamais pensé que j'aurais un contact avec les chrétiens en Occident. J'ai jamais pensé que je serais soutenu. J'ai jamais pensé que je trouverais de l'amour, de la fraternité, un partage biblique et de l'aide. C'est un véritable miracle. Et nous allons de miracle en miracle. Le juste vit par la foi. Les justes. Chers amis, c'est très important. Très important. Jacques chapitre 5. Sortons de l'incrédulité. Et faisons attention, la lâcheté est une grave maladie. C'est pire que le Covid. Ça touche l'âme. La foi est le contraire de la lâcheté. Marcher par la foi. Pas seulement avoir la foi. Marcher par la foi. Fonctionner, agir, penser par la foi en Christ. Croyez-vous qu'un renouveau spirituel est possible? Moi, j'y crois. Jacques chapitre 5, verset 19. Mes frères, pour nous, en Europe, ici, beaucoup de chrétiens actuellement s'égarent, beaucoup de chrétiens faiblissent, lâchent les assemblées, lâchent même la vie spirituelle, et c'est pas pour ça qu'il faut les rejeter. Pas pour ça qu'il faut condamner, jamais. Regardons ce que Jacques dit. Chapitre 5 de Jacques, verset 19. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » C'est une promesse. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, vous voyez qu'il faut être solidaire, très solidaire dans le corps de Christ. Qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Nous sommes dans la même barque, chers amis. Dans la même barque. On ne peut pas laisser tomber quelqu'un hors de la barque. Regardons la première épître de Pierre. C'est juste après Jacques. Chapitre 4, verset 7. Première épître de Pierre, chapitre 4, verset 7. La fin de toutes choses, donc de cette civilisation, de ce monde bâti dans le péché, hein, est proche, donc est venante, hein, c'est un parti présent. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière, c'est-à-dire consacrons-nous à la prière, à l'adoration, à l'intercession. Avant tout, ayons les uns les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Est-ce que ce n'est pas ce que je viens de dire dans Jacques ? La charité, le zèle, l'amour, les uns envers les autres, couvre une multitude de péchés. C'est-à-dire quand on peut tous être soulevés ensemble par l'amour, l'exhortation commune. J'étais très heureux l'autre jour quand j'ai vu que notre ami Jackie, qui a été opéré d'une hernie, pénible, une grosse opération, était chez lui, et que tout de suite le lendemain, deux frères de l'église le visitaient. Quel beau cadeau! Quel beau cadeau, chers amis! Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Je pense, elle couvre, c'est-à-dire, elle règle. C'est une exhortation, la charité, l'amour entraîne les gens vers le haut, pas vers le bas. Et la lâcheté disparaît. La faiblesse fait place à la force spirituelle. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Magnifique. Nous avons un corps, l'Église, qui a en lui tous les anticorps nécessaires contre les maladies spirituelles de l'Église. Les principaux anticorps sont la prière et l'amour. Regardons au chapitre 5. Chapitre 5, verset 5. « De même, vous qui êtes jeunes, dans la foi, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » L'élévation est toujours possible dans la vie chrétienne, car Dieu la veut, la souhaite. Partageons ce projet de Dieu pour nous. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à méditer ces versets. Premier épître de Pierre, chapitre 5, versets 5 à 11. Surtout les deux derniers versets. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Nous avons un cadeau formidable, la présence éternelle de Christ. Je suis au milieu de vous jusqu'à la fin du monde. J'ai reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Amen. Nous sommes mercredi, un vendredi. Ce sera bien sûr un autre sujet, vendredi prochain. Gloire à Dieu. Portez-vous bien.